de son nouveau roman. Également au programme, les secrets de la toile monumentale d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. Ce tableau vient d'être restauré et les révélations sont nombreuses. Et puis quelques jours après sa disparition, on retrouvera l'écrivain américain Paul Auster, puisqu'il y a 5 ans, il nous avait ouvert les portes de son bureau, là où il écrivait, chez lui, à New York. Voilà, on se retrouve tout à l'heure dans un gros quart d'heure.
Et ce sera très très bien tout à l'heure, Anthony, avec toute l'équipe, évidemment. Très bon réveil à ceux qui nous rejoignent, c'est RTL. Vous avez fait le bon choix, il est 9h.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Et à 9h, c'est toute l'actualité, tout ce qu'il faut savoir. C'est le journal avec Rachel Saadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une, cette reconstitution judiciaire en cours à Nanterre, étape clé de l'enquête sur la mort de Naël.
Ce jeune de 17 ans décédé après avoir été touché par un tir de policier en juin dernier. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Les élections européennes et ce grand débat historique ce midi sur RTL H-3 avant un grand jury exceptionnel avec, pour la première fois, les 7 principales têtes de liste sur un même plateau. Xi Jinping en France, le président chinois n'était pas venu depuis 2019. Et puis une page de télé qui se tourne, adieu des chiffres et des lettres.
RTL Matin.
Commençons donc par cette étape clé dans l'enquête sur la mort de Naël. La justice organise ce matin une reconstitution du drame.
Reconstitution qui doit commencer d'une minute à l'autre à Nanterre, là où Naël, 17 ans, a été tué par le tir d'un policier en juin dernier. La mort de l'adolescent avait provoqué, vous vous en souvenez, une vague d'émeutes dans tout le pays, devenant le symbole du débat sur les violences policières. Bonjour Hermine Leclèche.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de RTL dans les Hauts-de-Seine, en direct de Nanterre, où vous observez, Hermine, un important dispositif de sécurité mis en place pour assurer le bon déroulement de cette reconstitution.
Oui, et c'est un quartier entier de Nanterre qui est à l'arrêt ce matin. Pas de transport en commun, pas de passants, les bureaux sont fermés. Ne reste ici que des dizaines et des dizaines de camions de force de l'ordre qui élargissent à chaque minute la taille du périmètre de sécurité. Une reconstitution à l'abri des regards pour éviter d'éventuelles tensions. Vous le disiez, Rachel, c'est pour ces raisons que les 2 policiers mis en cause seront cagoulés, équipés de gilets pare-balles et de casques de moto aujourd'hui.
Hermine, l'enquête sur la mort de Naël, elle est toujours en cours, hein, vous l'avez dit. Les 2 policiers mis en cause sont sur place. Aujourd'hui, ils vont rejouer les scènes du drame. Mais alors, dans quel but? Quels sont les enjeux de cette reconstitution?
Eh bien, répondre à une question. Le policier, à l'origine du tir, a-t-il agi par légitime défense? 2 versions s'affrontent, celle des témoins d'un côté et celle des policiers de l'autre. Alors, pour trancher, la scène sera rejouée dans des conditions les plus proches de la réalité, à l'endroit exact du drame. Les 2 policiers placés dans cet espace de 40 cm entre le mur et la Mercedes jaune que conduisait Naël. Chaque détail sera analysé. Sur place ce matin aussi, les témoins de la scène, le procureur, les avocats des 2 parties, le père et la mère de Naël. C'est la première fois que toutes les parties seront confrontées ensemble dans un même lieu à leur version des faits.
Hermine Leclèche en direct de Nanterre pour RTL. Merci Hermine et on vous retrouve aussi dans le journal de 10h. On suit ensemble cette reconstitution organisée aujourd'hui par la justice dans les Hauts-de-Seine. À Châteauroux, dans l'Ain, 8000 personnes ont rendu un dernier hommage à Matisse hier. Marche blanche organisée en soutien aussi à la famille de l'adolescent poignardé à mort le week-end dernier. Le principal suspect, un jeune lui aussi âgé de 15 ans, a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire.
Européenne 2024 sur RTL.
RTL, vous l'avez compris, crée l'événement ce dimanche et ce débat XL entre les 7 principales têtes de liste sur votre radio.
Et ils et elles sont réunis pour la première fois autour d'un même plateau. Manon Aubry, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Raphaël Glucksmann, Valérie Ayé, Marion Maréchal et Marie Toussaint, tous invités d'un grand jury RTL Le Figaro M6 Paris Première, en partenariat avec LCP, exceptionnel donc, présenté par nul autre que le chef du service politique de RTL. Bonjour Olivier Bost.
Bonjour.
Alors, à 5 semaines du scrutin, c'est un événement historique qui va se dérouler ce midi sur RTL, Olivier.
Bah oui, il suffit de regarder en fait comment se présente pour l'instant cette élection. Vous avez un archi-leader, Jordan Bardella, qui recueille presque 2 fois plus d'intentions de vote que son premier concurrent. Et c'est la première fois aujourd'hui que Jordan Bardella participe à un débat avec les autres têtes de liste, d'où la tension et ce moment tant attendu par ses adversaires. Emmanuel Macron reproche ce matin au Rassemblement Rassemblement national dans une interview dans la Tribune dimanche de ne rien dire et de ne rien faire au Parlement européen. Valérie Ayer, la candidate d'Emmanuel Macron, sera là pour le dire en face tout à l'heure à midi à Jordan Bardella. Et puis le candidat du Parti socialiste, Raphaël Glucksmann, troisième, tentera lui d'accrocher la deuxième place, son objectif. Et il devra aussi s'expliquer après une semaine compliquée avec Manon Aubry de la France Insoumise, qui l'a beaucoup attaqué cette semaine sur un autre sujet, le Proche-Orient. Et puis pour tous les autres, les Républicains avec François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal pour Reconquête, Marie Toussaint pour les écologistes. Il s'agit de se différencier, de se donner un peu d'air, de s'éloigner de la barre fatidique des 5%, parce que je vous le rappelle, en dessous de 5% le 9 juin, il disparaîtrait du Parlement européen. Autant vous dire, vous l'avez compris, que tout le monde joue gros ce midi dans ce premier grand débat.
Olivier Bost, chef du service politique de RTL, vous allez animer tout à l'heure, de midi à 14h, un grand jury spécial, le premier débat des 7 principales têtes de liste de ces élections européennes. Ce sera en direct sur RTL et Paris Première, et puis diffusion aussi ce soir sur LCP. Et vous en parliez, Emmanuel Macron qui s'exprime ce matin dans les colonnes de la Tribune dimanche et de la Provence. Sur le volet international, le chef de l'État rappelle la volonté française d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, tout en condamnant fermement les blocus organisés par des militants pro-palestiniens à Sciences Po et dans plusieurs universités du pays. Interrogé sur une potentielle candidature à la mairie de Marseille en 2026, Emmanuel Macron dément les rumeurs. « Je ne serai pas candidat, pas à quoi que ce soit », affirme le chef de l'État.
La visite du président chinois chez nous en France.
Xi Jinping arrive cet après-midi pour donc une visite d'État de 2 jours. Il sera reçu demain à l'Élysée par Emmanuel Macron, qui l'emmènera ensuite dans le village de sa grand-mère dans les Pyrénées. Une visite dans le faste pour célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Mais Bénédicte Tassard, un sujet risque de tendre la conversation entre les deux hommes, celui de la guerre en Ukraine.
Oui, Xi Jinping reste le seul qui murmure à l'oreille de Poutine, le seul qui peut faire passer le message pour que cette guerre s'arrête. Et le président chinois aime se voir comme le médiateur en chef de la planète. Mais l'Élysée ne met pas trop d'espoir dans ce dossier. On sait que Moscou et Pékin ont en commun leur hostilité aux États-Unis. Leur but est de déstabiliser l'Occident. La Chine ne s'éloignera donc pas de la Russie et ne veut pas d'un échec complet de Poutine. Mais d'un autre côté, cette guerre, la Chine s'en serait bien passée, ce n'est pas bon pour les affaires et certains pays européens se rapprochent un peu trop de Washington.
Bénédicte Sassard, chef du service international de RTL.
9h07, la suite du journal dans un instant. Nous prenons la direction du Pas-de-Calais 6 mois après les inondations. A tout de suite.
RTL Matin
avec Stéphane Carpentier.
On vous écoute, mademoiselle.
Merci, monsieur Géniaud. En ce moment, pour l'achat d'une véranda Rénoval, la TVA est offerte. Ma véranda, c'est Rénoval.
Point final.
Conditions sur Rénoval.com.
Et tous ceux qui... Je reprends. À tous ceux qui... J'y arrive pas aujourd'hui. Bon, alors attends. À tous ceux qui auraient bien besoin d'un bon café. Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon café en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 12 mai, des 15 euros et jusqu'à 25 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés.
Chers concitoyens, Akena fabrique tous ses produits en France pour une empreinte carbone réduite. Akena vous garantit qualité, durabilité. Votez pour l'avenir, achetez Akena.
Je peux pas, je suis déjà reine.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
RTL Matin
avec Stéphane Carpentier.
La suite du journal avec Rachel Saadodine. Et donc RTL a fait le choix de retourner dans le Pas-de-Calais 6 mois après les inondations.
À Blandec, ville symbole de la catastrophe, où c'est désormais officiel, tout un quartier va être rasé. Une dizaine de maisons rachetées grâce à un fonds spécial de l'État. Antoine Decarne, vous vous êtes rendu sur place pour RTL à la rencontre des habitants à la fois soulagés de quitter une zone devenue trop à risque et en même temps émus de laisser derrière eux de nombreux souvenirs.
Dans ce lotissement, tous les volets sont fermés. Il ne reste que les marques du passage de l'eau sur les maisons.
C'est avec joie qu'on a appris qu'on allait être acheté par l'État. On voulait se mettre en sécurité.
Car Vincent Maquignon a eu 1,80 m d'eau chez lui. Il n'y vit plus depuis novembre dernier. Sa maison sera rasée.
C'est bien une démarche volontaire. Le prix de rachat a été abordé, bien sûr. C'est la première chose pour nous. Nous sommes juste à l'équilibre pour que nous on puisse racheter un bien.
Sur les 40 habitations à avoir fait une prédemande pour quitter sa maison, seuls 8 dossiers ont pour l'instant été déposés. Selon Vincent, il est difficile de franchir le pas.
Ici, les 8 maisons qui sont bonnes, c'est pas de gaieté de cœur. Hein. J'ai vu mes enfants grandir ici, sont nés ici, faire leur premier pas, leur premier pleur, le premier cri. On va tourner une grosse page.
Et Christine, une voisine également, elle a vécu 31 ans dans le lotissement. Partir pour elle est un choix rationnel.
C'est plus raisonnable de faire ça. De toute façon, si on part pas maintenant et qu'il y a encore des catastrophes après, on n'aura plus rien.
À terme, d'ici 2 ans, ce lotissement deviendra un bassin de rétention d'eau afin de protéger la commune de nouvelles inondations.
Antoine de Carna à Blandec dans le Pas-de-Calais pour RTL.
La télévision, Rachel, avec une page de l'histoire qui va se tourner.
Oui, presque 60 ans après sa création, le jeu historique des chiffres et des lettres ne sera pas reconduit à la rentrée. Annonce du directeur des antennes de France Télévisions dans une interview à la Tribune dimanche. Des chiffres et des lettres, un jeu mythique que beaucoup vont regretter, Laurent Marsic.
Et un jeu qui, au départ, en 1965, ne s'adressait qu'aux férus de la langue française. L'émission créée par Armand Jameau s'appelait alors Le mot le plus long et était animée par une présentatrice, Christine Fabrega.
Bonsoir à tous.
Le jeu s'arrête en 1970 et renaît 2 ans plus tard. On joue avec des lettres et désormais aussi avec des chiffres. Des chiffres et des lettres venaient donc de naître. Aux commandes, un jeune animateur, Patrice Lafont.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous présenter pour la première fois ce soir des chiffres et des lettres.
Et une équipe de spécialistes, un monsieur Dico, Max Favalelli, et un monsieur Calcul, qui sera vite remplacé par un candidat aux 12 victoires, Bertrand Renard.
Le compte est bon, 8 et 6, 13.
Qu'est-ce que vous avez dit?
Ah, je me suis trompé, pardon.
Il faut dire que l'émission a été tournée dans les conditions du direct et donc sans filet.
Monsieur Fagnon,
chiante.
Oui, le même.
Chiant.
Valérie Vandamme,
la flettre. Avec enculage au pluriel.
Oui, et des mouches exclusivement.
La saison dernière, le jeu avait été relégué aux fins d'après-midi, le week-end, n'attirant plus que quelques centaines de milliers de téléspectateurs.
Consonne.
Consonne.
Voyelle.
Voyelle.
Consonne.
Voyelle. Laurent Marsic et ce portrait de ce jeu historique des chiffres et des lettres. Profitez-en bien jusqu'à la fin de la saison puisqu'il n'y en aura plus à la rentrée.
Le football, Rachel, est la 32e journée de Ligue 1.
Absolument, avec la victoire de Monaco hier soir. Et puis Stéphane, vous allez me faire le plaisir de me donner la suite des résultats, s'il vous plaît.
C'est ce qui arrive quand on n'a pas la feuille sous les yeux. Je vais le faire, c'est plus facile, j'ai tout écrit. Monaco conforte sa place de dauphin. Donc en battant Clermont 4-1 sur le Rocher, Le Havre a dominé Strasbourg 3-1 à domicile. Rennes est allé s'imposer 3-2 sur le terrain de Metz et Brest a fait match nul sur sa pelouse hier soir face à Nantes 0-0. Vous avez tous les scores, tous les résultats évidemment sur notre site rtl.fr. Je vous signale qu'en rugby cet après-midi, Toulouse reçoit les Harlequins en demi-finale de Champions Cup et ça c'est un sacré rendez-vous pour les amateurs de l'Ovalie. Merci Rachel, ça donne pour toute l'actualité. Il y avait Rio cette nuit et une certaine Madonna qui était en concert après 40 ans d'une carrière. 1,5 million de personnes face à elle sur la plage de Copacabana, ça donnait ceci. Ce sera un peu plus calme à Longchamp cet après-midi pour le Quintet avec un départ à 15h15. Le Quintet du jour, 16 partants. Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 10, sur le 13, sur le 2, le 15, le 3, le 8 et le 9. Je répète, 10, 13, 2, 15, 3, 8 et 9. Et l'outsider de RTL, c'est le numéro 15. Le cadeau du dimanche pour vous récompenser, vous dire merci d'être là tous les week-ends. On vous offre une semaine en vacances en famille à 4 sur un bateau de location, le Boat, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. C'est Christophe qui est en ligne depuis l'Essonne. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Bienvenue, tout va bien ?
Oui, super.
Bon, super.
Merci.
On joue au Kiki comme d'habitude avec un Kiki spécial Marseille. Vous connaissez le principe. Pourquoi Marseille d'abord? Parce que la flamme olympique arrive sur place mercredi. Ce sera l'événement. Et il faut identifier dans le Kiki tout simplement des stars, des personnalités. Il y avait par exemple Kiki chante au Vélodrome.
Eh oui, Van Halen.
Bravo.
Quand je vais au Vélodrome, j'y vais régulièrement, j'entends tout le temps. Donc,
vous allez au Vélodrome, vous êtes un gars bien, vous.
Qui
parle de Marseille avec l'accent local?
À Marseille, la mer, elle est tellement claire que le second...
Monsieur Patrick Bosso.
Et puis, qui danse en discothèque à Marseille?
Ça, c'est toute ma jeunesse. I am.
C'est la mienne aussi, Christophe.
Eh oui, je sais, je sais. Vous avez la chance d'habiter Marseille, pas moi. Mais bon, j'espère un jour.
Ça viendra un jour. En tous les cas, avant tout ça, vous allez partir en vacances une semaine en famille à 4 sur un bateau de location, le Boat, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Ça va
alors
être bien,
c'est
ça.
C'est top, hein, parce que c'est l'anniversaire de mes jumelles aujourd'hui, 18 ans.
Oh, trop bien.
Et elles adorent le bateau, donc je vais leur faire une belle surprise tout à l'heure.
Eh ben, on a tout bon, ouais, on est ravis, Christophe.
C'est top. Merci à vous, en tout cas.
Ne changez rien, restez fidèles. Merci de votre fidélité. On rejouera le week-end prochain avec toute l'équipe. Jean-Sébastien sera là, Valérie également.
Ouais.
On sera ravis de vous accompagner, de vous informer comme d'habitude. Dans un instant, c'est la culture, c'est laissez-vous tenter. Mais, je rappelle à tout le monde aujourd'hui que c'est l'anniversaire d'Adèle. Et puis une bougie de plus aussi pour Gims.
Mais tu iras où si jamais je m'en vais, ça me rendrait.
Allez, profitez bien de la vie. Merci à Pascal, merci à Jeannot, Ilkay, à Nolan et à tout le monde d'avoir réalisé ce grand direct depuis 6h. Rendez-vous samedi prochain, 6h du matin. En attendant, on s'en va.
Je me tire, je me demande pourquoi je suis parti sans mentir. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir, moi, d'ici.
RTL Matin, week-end.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers. Mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados. En collaboration avec MSD.
RTL.
Renault. Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. À partir de 380€ par mois et 2 mois de loyer offert.
Austral Evolution E-Tech Full Hybrid 200 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4500€, deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiac, voire conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Inédit sur M6, enquête dans l'univers noir des blouses blanches.
La violence au travail, elle est partout, mais en particulier à l'hôpital.
Silence, impunité, tradition, des voix jusqu'alors bâillonnées veulent désormais dénoncer ces agressions.
Pourquoi est-ce que vous avez accepté de parler dans le documentaire ?
Pour toutes les femmes qui ne peuvent pas parler.
Des blouses pas si blanches, enquête sur les violences sexistes et sexuelles à l'hôpital. C'est ce soir à 23h10 sur M6.
À Lille Entrepote, c'est tout un programme. Passage par la Grand Place, détour dans le Vieux Lille, sa citadelle, ses fricadelles, ses frites, son Welsh. Là, votre pote vous dit
c'est une tuerie ce Welsh.
Mais ce que vous lui dites pas, c'est que tout ça, c'est grâce à Anthony, directeur de l'hôtel Kyriade Lille, qui vous a partagé ses adresses pour un séjour au top. Avec l'offre évasion, des deux nuits réservées, Kyriade vous offre 15% de réduction dans l'un de nos 250 hôtels en France. Pour encore plus de découvertes, conditions et réservations sur kyriade.com.
RTL,
laissez-vous tenter jusqu'à 10h.
Anthony Martin.
Bonjour à tous et bienvenue. On est heureux comme tout de vous retrouver. C'est parti pour votre laissez-vous tenter du dimanche. Merci d'être si nombreux et si fidèles à notre rendez-vous du dimanche matin. À mes côtés cette semaine, Isabelle Morini-Bosque, Laurent Marsic, Bernard Lu, Steven Bellery et notre réalisatrice Ilkay Saka. Bonjour à tous.
Bonjour.
C'est l'une des images les plus célèbres au monde. La toile monumentale du peintre Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, est à nouveau visible au musée du Louvre. Avec ses couleurs d'origine, Laurent Marsic.
Oui, après 6 mois de restauration, elle est comme une photographie. La toile a révélé plein de secrets dont certains vont occuper les chercheurs pendant des années.
Qui sera notre invité en tête-à-tête, Steven Bellery?
C'est l'une des écrivaines les plus populaires. 7 millions de romans vendus en moins de 10 ans. Virginie Grimaldi revient avec son livre le plus intime, Le deuil de son père et le travail d'écrivain s'y mêle. Entretien.
Au programme de votre édito télé, Isabelle Morini-Bosque.
Les gagnants de Pékin Express, Romain et Laura.
Ah oui, c'était hier soir.
Sacré hier soir, ben oui.
Et puis Bernard Lehu, nous reviendrons sur la disparition cette semaine de l'immense écrivain américain Paul Auster. Vous êtes un des rares à avoir passé un moment chez lui à New York. Il vous avait reçu en 2018.
Dans son bureau, là où il avait écrit quasiment tous ses livres, une rencontre assez vertigineuse.
9h15, 10h.
Laissez-vous tenter sur RTL.
J'ai le cœur au même endroit sur la carte. Ouais, Marseille, j'ai mis 5 ampères, ma carte 4. Tu sais, des cartes nord à Notre-Dame de la Garde. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Entre les bâtiments qui s'écroulent.
Alors ça, c'est l'une des personnalités préférées des jeunes français, c'est Soprano, le rappeur marseillais, n'est-ce pas, Laurent? C'est vrai que les lecteurs du journal de Mickey adorent Soprano. Chaque année, ils le mettent numéro 1.
Oui, c'est moi qui le lis chaque semaine, donc je vous le confirme.
Vous êtes restée une enfant, Isabelle.
Bien, le rappeur marseillais, Soprano, va faire ses débuts, non pas dans la chanson, le
français, ça fait un peu plus de 10 ans qu'il cartonne. Mais au cinéma, Stephen Bellery.
Il tiendra le rôle principal d'une comédie d'aventure familiale dont le tournage vient de débuter. Le film va s'appeler Marius et les gardiens de la cité phocéenne, sorti prévu en 2025. Il doit se promener dans un bus panoramique avec des touristes.
C'est vrai?
Ouais. Il sera guide autoproclamé roi de Marseille, ça promet.
Et à Marseille, mais on l'attend mercredi, Soprano. Il va faire la fête avec les Marseillais.
La flamme arrive dans la ville de Marseille.
Il doit donner olympique.
Un concert gratuit sur une scène flottante installée face au vieux port. Son copain Alonso, copain de Psychiatre de la Rime, doit être là également.
Bernard Lehu, est-ce que Soprano est entré dans le petit Larousse illustré?
Ouais, je suis désolé de vous décevoir.
Non, pas encore.
Et d'ailleurs, globalement, les rappeurs, ça n'a pas l'air d'être le genre du Larousse. Bah, pour l'instant, ça peut peut-être évoluer.
Claude MC Solar n'est pas dans le Larousse, je trouve ça vraiment anormal. Ouais. Voilà, la nouvelle édition 2025 du petit Larousse illustré est sortie cette semaine. Quelles sont les personnalités, Bernard, qui ont désormais leur nom dans le dico?
La musique est tout de même bien représentée. Il y a deux entrées, et puis pas n'importe qui. Mylène Farmer, du côté de la chanson
ils étaient
française.
Pas pressés,
il était temps. Il faut faire ses preuves.
40 ans de carrière.
Et Beyoncé, qui aura mis un peu moins de temps pour entrer au Larousse.
Cinéma aussi.
Alors là, c'est peut-être là où il y a la plus belle affiche cette année. On se croirait à Cannes. Cate Blanchett, Virginie Efira, et puis Omar Sy, qui est décidément partout puisqu'on a appris aussi cette semaine qu'il faisait partie du jury de Cannes.
La BD.
Puis, oui, il y a deux grands noms de la bande dessinée. Ça, c'est assez rare. Florence Sestac et Riyad Satouf. Et puis, un très joli mot. Pareidolie.
Je ne sais pas du tout.
Alors, moi, le premier qui m'en avait parlé, c'était Grégoire Delacour, le romancier. Je vous rassure, ça n'est pas une maladie.
Pareidolie.
C'est, c'est la tendance à voir des formes dans, par exemple, les nuages, les rochers, des taches d'encre. Et à ce moment-là, vous pratiquez la pareidolie qui entre dans la nouvelle édition du petit Larousse illustré, rappelons-le, le dictionnaire donc préféré des Français, le plus vendu en tout cas.
Merci Bernard. À suivre, Eugène Delacroix. 1798-1863, peintre français, grand coloriste, novateur réfléchi. Il fut le chef de l'école romantique. Voilà la présentation du Larousse. On a rendez-vous avec son tableau le plus connu. C'est La liberté guidant le peuple. Cette toile monumentale a été restaurée pendant 6 mois. De nombreux éléments cachés ont été révélés par ce nettoyage spectaculaire. Laurent Marcy, vous avez pu l'approcher de près. Vous allez nous livrer les secrets de ce tableau célébrissime dans un instant.
Laissez-vous tenter
avec Anthony Martin.
T'es qui, toi ?
Je suis Blue.
Blue et compagnie.
Et si je te disais que les amis imaginaires sont réels ?
Le film événement pour toute la famille.
J'ai vraiment adoré.
On rigole.
Très émouvant, très touchant.
Il y a de l'amour.
Retour en enfance.
Papa, maman, les enfants, tout le monde.
Avec Ryan Reynolds et les voix de José Garcia et Mylène Farmer.
Ça fait du bien.
Blue et compagnie, le 8 mai au cinéma.
Ah ben, faut aller le voir, hein.
Avec RTL. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Ah, le patron, ils les ont à 1,98€.
Les avocats ?
Eh oui, dès demain chez Lidl, ils font la barquette de deux avocats à 1,98€.
Quoi ? 99 centimes la pièce ? Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
C'est l'avocat Sion de Lidl, non ?
Avec des avocats à ce prix-là, il n'y a plus de justice.
Et on est juste mal.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, origine Pérou, Afrique du Sud ou Kenya selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Peugeot. Nous prenons en moyenne 35 000 décisions par jour. On ne sait pas vous, mais chez Peugeot, on trouve que ça fait beaucoup. C'est pourquoi nous lançons le nouveau Peugeot 3008 hybride. Plus besoin de choisir entre électrique et thermique. Sobre et dynamique, il permet de rouler jusqu'à 50% du temps en électrique, en ville, et d'économiser jusqu'à 30% de carburant. Venez le découvrir en concession ou sur Peugeot.fr. C'est sans doute la meilleure des 35 000 décisions que vous prendrez aujourd'hui.
Suivant état de charge de batterie, style de conduite versus une motorisation thermique. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Tout à l'heure à 12h, retrouvez le grand jury spécial élections européennes.
C'est le premier débat entre les 7 têtes de liste aux élections européennes. Programme contre programme, argument contre argument. Pour qui allez-vous voter ? 2 heures d'émission pour vous faire une opinion en direct sur RTL et Paris Première, en partenariat avec M6, Le Figaro et LCP, la chaîne parlementaire.
Le grand jury spécial élections européennes présenté par Olivier Bost, c'est tout à l'heure entre 12h et 14h sur RTL.
Chaque dimanche jusqu'à 10h sur RTL,
laissez-vous tenter.
Présenté par Anthony Martin.
On vous souhaite une belle journée à l'écoute d'RTL. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin. Allez, on vous emmène maintenant au musée pour redécouvrir un des chefs-d'œuvre les plus emblématiques du musée du Louvre, La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. Une femme au sein nu brandissant le drapeau français sur une barricade lors des 3 journées de révolte de juillet 1830. C'était les journées qu'on a appelées les Trois Glorieuses. Depuis septembre 2023, ce tableau est bien n'était plus visible au musée du Louvre. Et pour cause, il était en restauration, 6 mois de restauration. Et il est à nouveau visible depuis jeudi. Cette restauration a permis de lui redonner ses couleurs d'origine et de dévoiler une foule de détails jusque-là cachés. Laurent Marsic, vous avez eu la chance, donc on le disait, de voir cette immense toile de près avant son nouvel accrochage.
Oui, et en dehors de son cadre, alors c'est vrai que c'est un tableau iconique, hein, cette liberté, elle figurait, souvenez-vous, sur les billets de 100 francs pour les plus anciens. C'est un tableau qui a été utilisé dans pratiquement toutes les révolutions dans le monde, détourné par la pub, la liberté était devenue un écureuil, elle avait même un compte à la caisse d'épargne. On a tous en mémoire ce tableau très jaune, jauni. J'ai rencontré au Louvre les restauratrices qui ont donc rendu à cette toile ses couleurs presque d'origine. Quelle était la problématique ? Réponse d'une des deux restauratrices, Laurence Mignot.
Nous avions une problématique de vernis ancien, jaune, terne, dégradé. Comme un film photo, jaune sur la surface, qui modifie toutes les couleurs, qui les jaunit, et puis qui atténue aussi tous les contrastes.
Armées de coton-tiges format XXL, des solvants, elles ont donc patiemment, doucement enlevé les couches successives de vernis en travaillant de bas en haut. Bénédicte Trémolière et l'autre restauratrice.
Il faut toujours être extrêmement prudent, donc ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande des réflexions, mais c'est l'enjeu de notre métier, mais c'est vrai que ce qui me plaît, c'est que je me dis que c'est un tableau qui va questionner plein de personnes, qui s'est réactualisé par rapport à des sujets contemporains, que c'est un tableau qui est vivant en fait, qui a repris une sorte de force de questionnement.
Voilà, cette restauration qui a duré donc 6 mois, on le rappelle, a permis en effet de révéler plein de secrets autour de cette œuvre.
Des choses alors qu'on supposait, mais qu'on ne voyait pas. On sait par exemple que Delacroix a peint ce tableau en décembre 1830, assez rapidement, quelques semaines. Cela suppose qu'il a fait pas mal de corrections. En fait, comme le tableau n'a pas été restauré depuis 75 ans, on a pu utiliser aujourd'hui des outils du 21e siècle, c'est-à-dire tout ce qui peut être radiographie, ultraviolet. Et voici ce qu'on a découvert comme Fabre et conservateur au département des peintures du Louvre.
On a découvert qu'il avait réorienté le visage de la Liberté, qui regardait un des hommes qui la supplie à ses pieds. Puis finalement, Delacroix a changé, tourné son visage de profil pour lui donner un aspect plus divin. Puis on découvre aussi quantité de petits échos au drapeau bleu-blanc-rouge, mais qui sont disséminés partout, dans l'infiniment petit. En regardant par exemple le mollet d'un des cadavres au premier plan, on voit qu'il y a des petites hachures bleu-blanc-rouge sur la peau. Et puis ce cadavre lui-même est un drapeau finalement, puisqu'il a une chaussette bleue, une chemise blanche, et il y a du sang rouge qui coule de son crâne.
Et moi, j'ai pu m'approcher très très près du tableau, puisqu'il n'était évidemment pas présenté au public à ce moment-là, et ils nous ont montré qu'effectivement, le drapeau bleu-blanc-rouge qu'elle tient à la main, en fait, il descendait à l'origine beaucoup plus bas, il a corrigé ça, et il a fait un nuage, en fait, à cet endroit-là. Quand on s'approche à quelques centimètres, on le voit.
Et Laurent, vous êtes retourné au Louvre, justement, pour voir la réaction des visiteurs.
Avec une incroyable foule devant le tableau, au Louvre, on parle d'effet Joconde, il y avait vraiment beaucoup de monde, effet waouh auprès des visiteurs que j'ai croisés.
L'effet, c'est resplendissant, c'est on retrouve toute la puissance de Delacroix à travers ce tableau avec toutes ces couleurs qui nous arrivent vraiment plus en 3 dimensions quasiment maintenant. C'est magnifique. Moi, je suis vraiment ému de voir ça.
Absolutely transformed.
C'est une transformation complète. Tous les détails, toutes ces notes de couleurs sont plus vibrantes, plus vivaces. C'est une surprise merveilleuse. J'avais lu qu'il avait été restauré, mais je le vois là maintenant pour la première fois. C'est juste par coïncidence. C'est incroyable, vraiment incroyable.
It's amazing.
Bah, les couleurs, ils sont plus vifs. Et du coup, c'est plus beau. On voit plus le tableau, on voit mieux.
On en a une reproduction dans notre salle de cours. On se disait qu'on le reconnaissait à peine, parce que là, les couleurs sont quand même beaucoup plus éclatantes.
Voilà, et vous pouvez aller sur rtl.fr, où je vous ai fait tout un dossier avec la possibilité justement de voir le avant-après.
Ah oui, avec un montage spécial.
Un montage spécial, voilà, exactement. Et à partir du 29 mai, notez qu'on pourra aller au Louvre le voir en nocturne, puisque le Louvre, désormais, sera ouvert en nocturne les mercredis et vendredis.
Ah, deux jours par semaine.
Ça,
c'est nouveau.
Jusqu'à 21h.
À partir de fin mai. Isabelle ?
J'espère qu'ils en restaureront d'autres, parce qu'il y en a dans les réserves du Louvre.
Il y a un vaste programme de restauration des grands formats.
Ouais, j'espère.
Merci Laurent. L'intégralité de votre reportage au Louvre sur les secrets de cette toile de Delacroix est à découvrir dans le dernier épisode en date du podcast de la rédaction. Tout savoir sûr, il suffit d'aller sur le site ou l'appli RTL. Allez, dans un instant, on a rendez-vous avec une romancière qui n'en finit pas de surprendre. Virginie Grimaldi, deuxième du palmarès des meilleures ventes de livres de l'année 2023, devant Pierre Lemaitre, Franck Tillier, Guillaume Musso, Marc Lévy. Elle était à la même place en 2020. C'est une des auteurs très populaires, aussi très touchante. Virginie Grimaldi, invitée du tête-à-tête de Laissez-vous tenter, à vos côtés, Stephen Bellery, dans un instant. A tout de suite.
Une princesse avec ce nom-là.
Laissez-vous tenter.
Tony Martin sur RTL.
Hello everybody, it's Ryan Gosling. J'ai eu la chance de voir le film Un petit truc en plus de mon ami Artus. J'ai rigolé énormément et c'est beaucoup de l'émotion. C'est vraiment un super film. Merci Ryan. Si comme Ryan Gosling, vous voulez découvrir Un petit truc en plus, c'est en ce moment au cinéma. Je vous fais des bisous. Un petit truc en plus, un film Nutri-Score A. Attention, ce film peut contenir des traces d'Alice Belaïdi et Clovis Cornillac.
Avec RTL.
RTL.
Arnaud Touche. Une lettre d'Amérique.
Chaque mardi, je vous envoie une lettre d'Amérique et cette semaine, je vous emmène dans les salons de réception du consulat de France à New York pour parler gastronomie. Trois chefs français et une critique culinaire ont été décorés dans le plus grand salon face à Central Park. Pourquoi ces chefs ont-ils traversé l'Atlantique pour conquérir le palais des Américains? Mais aussi, comment le cassoulet est-il devenu un plat star ici à New York? Réponse dans cette nouvelle lettre d'Amérique.
Téléchargez dès maintenant une lettre d'Amérique sur l'appli RTL.
Anthony Martin sur RTL.
Laissez-vous tenter.
Et toujours à mes côtés, Isabelle Morini-Bosque, Laure Marsic, Bernard Lehu et Steven Bellery. Bonne matinée à tous. Merci d'être avec nous sur RTL. C'est l'heure de notre rencontre du dimanche. Alors peut-être avez-vous à la maison un de ces livres. Le premier jour du reste de ma vie, il est grand temps de rallumer les étoiles et que ne durent que les moments doux ou encore les possibles. Tous ces romans sont signés Virginie Grimaldi. Elle est une des romancières les plus lues en France. C'est simple, elles ne sont que deux. Je parle sous haut de contrôle, Bernard. À avoir vendu plus d'un million de livres l'an dernier, Mélissa D'Acosta.
D'Acosta,
et elle. Sûr. Voilà. On va passer un bon moment en compagnie de Virginie Grimaldi, Steven.
Elsa vient de perdre son père, elle ne relève pas la tête, elle décide de consulter un psy. Dans la salle d'attente, elle rencontre Vincent, auteur à succès, un peu paumé. Tout les oppose, mais ils vont se rapprocher, plus grand que le ciel. Le 10e roman de Virginie Grimaldi vient de sortir chez Flammarion. C'est son livre le plus intime, car l'auteur se raconte entre les lignes. Elle aussi vient de perdre son papa. Elle aussi est une écrivaine populaire. L'occasion d'évoquer avec Virginie Grimaldi son deuil, l'humour dans ses romans, la pauvreté qu'elle a connue enfant, ses habitudes d'écriture et son statut de star de la littérature.
C'est notre tête-à-tête du dimanche.
Bonjour Virginie Grimaldi.
Bonjour.
Merci d'être à RTL. Vous venez de publier Plus grand que le ciel. C'est votre 10e roman, le plus intime probablement. Il se déroule dans la région de Bordeaux, la ville où vous vivez. Il met en scène un écrivain et comme Elsa, l'autre personnage principal, vous avez perdu votre père il y a 9 mois. D'emblée, après sa disparition, vous avez ressenti le besoin d'écrire, mais pas un roman, prolonger d'une certaine manière votre histoire. Pourquoi vous vous êtes jeté dans l'écriture, tout simplement, après la disparition de votre père?
Parce que ça m'a mise à terre et que le seul moyen de rester un peu debout, c'était de prolonger cette existence. Et ça passait par lui écrire et écrire tous les souvenirs que j'avais de lui. Parce que j'ai peur qu'il s'évapore et que c'est tout ce qu'il reste. Et très vite, j'arrive pas à l'expliquer, mais je pense que parce que c'était trop douloureux de penser à lui, j'ai ajouté des personnages, Elsa et Vincent, et beaucoup de fiction autour. Et c'est devenu un roman.
Mais c'est devenu malgré vous un roman alors?
Mais oui. Et ça a été un moyen pour mettre de la distance, je pense, entre ce que je vivais et moi, et entre la réalité et moi.
Il y a quand même beaucoup de vous, tant dans Vincent que dans Elsa.
Oui.
Vous n'avez pas eu la tentation à un moment, je ne sais pas, de changer de ville, de gommer quelques détails? Parce qu'on se demande,
oui.
On se demande est-ce que ça c'est Virginie ou pas quand
c'est
on le
ça.
Lit.
On ne le sait pas. Et justement, c'est ce qui est très confortable, c'est que à chaque fois que je mettais quelque chose de très intime, j'avais la tentation de le retirer et je me disais, mais les gens ne sauront pas ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, donc ça me protège parce qu'il y a des choses qui sont fausses.
Après l'épilogue qui est magnifique, les gens découvriront.
Merci.
Vous avez rajouté quelques pages où vous expliquez que l'écriture avait été salvatrice de ce roman. Il vous a fait du bien, ce roman, intimement, personnellement, à écrire?
Alors, il m'a fait du mal. Il a été très douloureux à écrire. Mais finalement, c'est quand j'ai fini de l'écrire que ça a été le plus dur. Parce que ce lien cessait, prenait fin. Et j'avais l'impression que c'était là que je disais vraiment au revoir à mon père. Et quand je le vois dans les mains des lecteurs, j'ai l'impression d'être à poil devant eux. Puis, on va pas se mentir, c'est pas juste l'écriture d'un livre qui m'a réparé. Il va me falloir un peu plus de temps.
Elsa, le personnage qu'on suit tout au long de votre roman, décide d'aller consulter un psychologue après la mort de son père, elle ne relève pas la tête. C'est là qu'elle va rencontrer Vincent dans la salle d'attente. Est-ce que vous avez eu besoin d'aller consulter?
Oui, absolument. J'avais déjà consulté par le passé et là, très rapidement, j'ai ressenti le besoin d'aller parler parce que je sentais bien que j'encaissais pas cette histoire. D'autant que ça avait été précédé d'une maladie, la maladie d'Alzheimer, qui est assez violente. Donc voilà, j'ai eu besoin de consulter. Ça m'a fait du bien.
Donc c'est pas des ficus, les psys? Ils parlaient un peu plus,
non,
le vôtre?
La mienne parle un peu plus que le docteur Chaumont. renommée.
Votre nouveau roman explore la question aussi du moral, de cette injonction que vous dites à aller bien coûte que coûte. Vous l'avez ressenti cette injonction dans votre vie ?
Oui, à chaque fois qu'on dit à quelqu'un qu'on n'est pas en forme, qu'on est triste, il nous propose des séances de yoga, des antidépresseurs, des distractions. Finalement, on ne nous autorise pas à aller mal. Et maintenant, je prends le temps d'aller mal, parce que parfois c'est nécessaire, pour aller bien ensuite, et qu'on en a le droit.
Elsa, elle a connu une enfance, je cite, dans un appartement perché au 7e étage d'une tour, et les fins de mois diététiques. Ça a été votre cas, je crois.
Mes parents viennent d'un milieu modeste. Mon père a travaillé pendant 25 ans dans une usine à la chaîne. Ma mère, pendant des années, a cumulé deux emplois pour boucler les fins de mois. On a vécu dans des logements sociaux. Il y a même eu plusieurs années pendant lesquelles, avec mon père, on allait chercher à manger à la banque alimentaire. Donc, je parle du milieu dont je viens et que je connais bien. Mais ça ne nous empêchait pas d'être heureux et de vivre bien.
C'est sa mère qui avait éveillé chez Elsa l'amour des mots. Chaque soir au coucher, elle lui lisait une histoire, espérant aiguiser ses sens. Et vous, qui vous a transmis l'amour des mots ? Et la lecture.
Moi, ce sont deux femmes, c'est ma mère et ma grand-mère. Ma mère écrivait un petit peu aussi, j'ai retrouvé des 33 tours, notamment L'été indien de Joe Dassin, qui était la chanson de mon père et ma mère. Elle lui écrivait des poèmes sur la pochette et elle me lisait des livres tous les soirs. Vraiment, je n'y coupais pas, j'avais mon histoire tous les soirs, ce que je reproduis avec mes enfants aujourd'hui. Et ma grand-mère écrivait des poèmes, elle avait des carnets de poésie et elle écrivait des poèmes sur tout ce qui l'a touchée, des faits d'actualité, comme des choses qu'elle vivait elle-même. Dès que je me suis rendu compte du pouvoir des mots, ça m'a donné envie d'écrire. J'écrivais des poèmes où je criais ma peur de grandir.
Temps qui passe, vous taraudez déjà.
Ah, toujours. Le temps qui passe a toujours été mon grand sujet. Et la lecture, oui, je lisais énormément de tout. Je me souviens d'une période où je lisais des témoignages de personnes qui avaient perdu un enfant, traversé des cancers. Enfin, je sais pas, on n'avait pas beaucoup de livres dans la bibliothèque, donc je lisais ce qui me tombait sous la main, mais je me réfugiais énormément dans la fiction.
Il m'a donné sa pudeur, quelques-unes de ses névroses et beaucoup trop d'honnêteté, mon plus bel héritage est son sens de l'humour. Vous êtes très drôle, Virginie, c'est même l'une des caractéristiques de votre œuvre. Est-ce que votre humour, il vient aussi de votre papa ?
Il vient surtout de mon papa, oui. Ce n'est pas ma nature, c'est un langage que j'ai développé avec mon père. Au divorce de mes parents, il s'est retrouvé extrêmement triste et j'ai eu besoin de le faire rire. C'est devenu notre langage et jusqu'au bout, même quand il ne parlait plus, dès que je lui sortais une blague, je voyais son œil qui s'illuminait. C'est resté, c'est quelque chose qui est devenu constitutif de moi, mais je crois que je ne l'avais pas au départ.
Vous trempez votre plume dans l'humour, pourquoi ? Pour désamorcer ? Parce que ça rend la vie plus légère ?
Oui, parce que je suis comme ça dans la vie, parce que plus je suis triste et plus je suis drôle, apparemment. Et oui, parce que dans mon quotidien, il y a énormément d'humour et que forcément, ça se retrouve dans ma plume.
Est-ce que vous étiez comme ça aussi gamine ? Vous faisiez rire les copains et vos notes ont chuté en 6e ?
Oui. Oui, alors c'était plutôt... Oui, en 6e, ça a chuté, mais alors en 4e, c'est devenu catastrophique. J'étais prête à tout pour faire rire les autres. J'étais un clown. Ma mère était convoquée tous les 4 matins. Et oui, ça aussi, c'est vrai.
Votre personnage d'Elsa raconte aussi avoir un trouble de l'attention qu'elle a découvert assez tardivement.
Bon, finalement, il y a beaucoup de moi dans ce livre.
C'est
lien.
Aussi votre cas, vraiment ?
Oui. Oui, oui, c'est en faisant diagnostiquer mon fils que je me suis dit, ah tiens, il y a quelque chose qui me ressemble. Et en effet, j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans. Et ça explique beaucoup, beaucoup de choses, notamment une procrastination extrême.
Comment vous faites pour finir vos livres ?
Eh bien, je me mets une pression monstre, et puis j'ai une éditrice qui ne me lâche pas. Et non, parce que j'aime ça, mais tout ce qui m'anime un petit peu moins, comme ouvrir le courrier, répondre aux messages, enfin voilà, c'est un peu plus compliqué. Et puis j'oublie beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est dramatique parce que ça donne lieu à des scènes assez comiques. Dans les salons du livre, il y a des gens qui viennent me parler de mes livres et je ne me souviens absolument pas des scènes dont ils me parlent.
Et dans vos propres livres
souvent. Ah, dans mes propres livres. Non. J'oublie des scènes, j'oublie les prénoms.
Virginie Grimaldi, vous avez vendu 7 millions de romans en même pas 10 ans. Vous êtes traduite dans plus de 20 langues et on a l'impression que ces chiffres n'ont pas vraiment d'importance. Vous regardez pas tout ça ?
Si, bien sûr, je le regarde et j'en suis très heureuse, mais c'est anonyme un chiffre. Ce qui compte, c'est quand j'imagine toutes les personnes qui ont lu ce que j'ai écrit. Et là, c'est vertigineux. C'est surtout les classements qui m'importent peu parce que je trouve qu'on n'est pas en concurrence avec les autres auteurs. On veut nous mettre en concurrence, mais ce n'est pas le cas. Mais les chiffres, évidemment, ça fait toujours plaisir et ça montre que il y a un attachement des lecteurs, une fidélité, et ça, c'est extrêmement touchant.
L'amour des gens, il vous submerge ?
Oui, ça me dépasse parce que en plus, parfois, ils identifient vraiment mes livres à la personne que je suis. Donc, certaines personnes m'idéalisent et il y a une dissonance entre ce que je pense de moi. Moi, j'ai un manque de confiance en moi. Les autres ont trop de confiance en moi. Et donc, il y a une dissonance entre les deux qui est assez difficile à gérer. Mais je prends les messages, qu'ils soient positifs ou négatifs, avec beaucoup de distance. Du coup, ça me protège. Et oui, toujours. Le manque de confiance est toujours présent. Mais je crois que c'est intrinsèque à ma personnalité. Et c'est très bien comme ça.
Vous écrivez comment, Virginie? Vous avez un rituel, des petites habitudes ou absolument pas?
Non, j'écris sur mon ordinateur. Il faut que je sois dans le silence absolu. J'essaie d'être le moins distraite possible parce que justement, dû à mon trouble de l'attention, je vais faire un petit coup de tour sur Instagram et je perds énormément de temps. Donc je coupe toutes ces distractions et j'écris, je me lance pour plusieurs heures d'affilée. Je peux oublier de manger une fois que je suis lancée. Et j'écris beaucoup la nuit. En tout cas, c'est plus facile la nuit. Je me rends compte que j'essaie d'écrire en journée, mais que c'est plus laborieux. Et la nuit, j'ai l'impression, quand tout le monde dort, quand les soucis dorment aussi, eh bien, ça jaillit beaucoup plus facilement.
Le Coca-Zéro, c'est votre drogue, alors?
C'est ma drogue.
La nuit?
Ah, même la nuit. Toute la journée, dès le réveil. C'est la seule chose que j'ai pas réussi à arrêter.
Vous avez plusieurs romans de terminés dans vos tiroirs ou comme vous publiez un roman par an, vous le commencez chaque année, vous partez d'une page blanche et vous le terminez dans les mois qui suivent?
Ah oui, non, je pars d'une page blanche justement parce qu'une idée est venue se planter dans ma tête et je n'ai aucun roman d'avance. J'ai juste le tout premier manuscrit que j'avais envoyé à des maisons d'édition il y a une vingtaine ou une quinzaine d'années, mais que je ne publierai absolument jamais parce que il nuirait à ma réputation.
Parfois c'est aussi indicateur de quelque chose de voir un début.
Non, je ne l'assumerai pas du tout.
Merci Virginie Grimaldi.
Merci à vous.
Chaque dimanche matin sur RTL, on prend le temps des confidences, celle de la romancière Virginie Grimaldi cette semaine. Elle est très touchante, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est drôle quand elle évoque le trouble de l'attention dont elle souffre avec cette anecdote dans les salons du livre. Les gens parlent de mon livre, dit-elle, mais
je ne me souviens pas des scènes qu'ils décrivent alors que c'est moi qui les ai écrites et je ne me souviens pas des prénoms.
Mais elle en rigole, elle en rit. Voilà.
Elle est comme ça.
Bernard.
Non, et puis vraiment, ce qui la caractérise hein, par rapport aux autres auteurs un peu du même genre, c'est l'humour. Vraiment, on rit beaucoup dans ses livres, elle a le sens de l'humour, ouais. Parfois même un peu vachard, un peu beaucoup.
Et de l'autodérision.
Aussi.
Plus grand que le ciel, c'est le nom du nouveau roman de Virginie Grimaldi. Il est sorti aux éditions Flammarion.
Voilà, cette rencontre avec Virginie Grimaldi est à retrouver en format long sur le site ou l'appli RTL et elle file le sourire cette rencontre. Je vous conseille d'aller l'écouter. Merci Steven Bellery. Merci à tous d'être à l'écoute de Laissez-vous tenter. À suivre, bien Isabelle, on vous retrouve pour le supplément télé du dimanche.
RTL. Laissez-vous tenter jusqu'à 10h.
Anthony Martin. À tous ceux qui préfèrent les tortillas aux simples chips, à ceux qui préfèrent le guacamole à la rillette, et à ceux qui préfèrent les faritas aux sandwichs. Dès mardi, Intermarché offre 34% en avantage carte sur le fût de 5 litres de bière aromatisée originale Desperados, soit 13,53€ avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 20 mai, 20,50€ prix payé, 4,10€ le litre, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Inédit sur M6, enquête dans l'univers noir des blouses blanches.
La violence au travail, elle est partout, mais en particulier à l'hôpital.
Silence, impunité, tradition, des voix jusqu'alors bâillonnées veulent désormais dénoncer ces agressions.
Pourquoi est-ce que vous avez accepté de parler dans le documentaire?
Pour toutes les femmes qui ne peuvent pas parler.
Des blouses pas si blanches, enquête sur les violences sexistes et sexuelles à l'hôpital. C'est ce soir à 23h10 sur M6.
Pour ce week-end en amoureux à Marseille, elle vous sort le grand jeu. Sortie en bateau, coucher du soleil en bord de mer, dîner aux chandelles dans le resto du coin, il vous dit
« Merci chérie, c'est trop !»
Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que tout ça, c'est grâce à Maxime, le directeur de l'hôtel Kyria de Marseille, qui vous a préparé ce programme aux petits oignons. Avec l'offre évasion, des deux nuits réservées, Kyriade vous offre 15% de réduction dans l'un de nos 250 hôtels en France. Pour encore plus de découvertes, conditions et réservations sur kyriade.com.
Chaque dimanche, jusqu'à 10h sur RTL.
Laissez-vous tenter.
Présenté par Anthony Martin.
Avec toute l'équipe à mes côtés en cette matinée. Merci d'être avec nous, Isabelle Morini-Bosque. C'est l'heure de notre supplément télé du week-end. Alors, depuis hier soir, on connaît le binôme gagnant de l'émission d'M6 Pékin Express. C'était la finale, hein, hier soir, finale de la 18e édition, c'est ça?
C'est ça.
C'est le coiffeur et sa cliente qui ont gagné. Je suis en train de me rendre compte que ceux qui voulaient regarder en replay et qui écoutent l'émission,
ah ben oui,
on leur a cassé le truc. C'est le coiffeur et sa cliente qui ont gagné. Romain et Laura. si vous suivez l'émission. Alors, vous êtes allé les féliciter et heureux gagnant. Vous les avez rencontrés, Isabelle ?
Oui, personne ne les avait vus venir. Hein. Oui, le foot a perturbé la diffusion de ce jeu d'aventure. 2 millions de fidèles de moyenne, 1 million de plus en replay chaque semaine. Et cette saison a eu plein de surprises. Un petit A, record d'abandon, notamment les jumeaux belges dès le premier épisode. Adorable, mais autant fait pour participer à Pékin que moi pour bosser à la NASA. Hein. Deuxième surprise, le duo d'inconnus. On s'attendait seulement à ce qu'ils fassent rire et ils ont assuré. Riyad, le gros dur du biceps, Louison, le grand mou du beach, chouchou du public en quart de finale. Enfin, troisième surprise, les deux binômes de finalistes n'auraient jamais dû être là, à commencer donc par vous, Romain et Laura.
C'est vrai. C'est quand même incroyable.
Bien raconté, hein.
On a postulé, comme tous les ans, habituellement on fait avec nos conjoints. Ouais. Cette année, on a fait ensemble et on a eu la chance du coup de faire les castings jusqu'au bout. Et malheureusement, on a été retenus en tant que binôme de remplacement.
Ça fait mal, ça, hein, quand on nous appelle pour nous dire, malheureusement, vous ne serez pas choisi cette année, ce sera plutôt remplacement. Est-ce que vous acceptez ? Oui, s'il y a une infime chance.
Le samedi 2 septembre, 11h, mon téléphone il sonne. Et en fait, c'était la production. Tu décolles ce soir à 21h.
Des jumeaux belges qui ont abandonné en plein milieu du premier épisode.
Ouais, grâce à eux, du coup, on a pu intégrer la course. Merci, Brandon et Nathan. Merci,
c'est grâce à eux.
Ouais, ils sont bien rattrapés depuis. Hein.
Ouais, absolument. Pékin Express est souvent classé comme télé-réalité, ce qui est stupide. Hein. Comme le dit Stéphane Rothenberg, les forts s'effondrent souvent, les faibles se révèlent tout aussi souvent, comme les copines corses. Autre finaliste éliminé et revenu dans la course après abandon d'un autre binôme au cinquième épisode.
C'est vrai que parfois, c'est pas forcément les gros muscles qui vont en finale. Là, ça en est la preuve. C'est fou, même nous, on réalise pas. Romain, pince-moi parce que...
c'est un rêve.
Souvent, les candidats ont l'impression au montage qu'on n'a pas retenu ce qui les valorisait.
J'étais un petit peu frustré, mais après, on savait très bien qu'on était filmé du matin au soir et que malheureusement, on allait voir qu'un court extrait de notre aventure.
Il y a énormément de séquences, c'était le jeu aussi. Hein.
Et Romain et Laura sont rentrés indemnes de Pékin Express. C'est un exploit vu la dureté des épreuves.
Ah oui, c'est incroyablement difficile. Ça s'est joué un cheveu, si j'ose dire, pour un coiffeur. Justement, quelle a été leur épreuve la plus dure ?
Et les piments.
Moi, j'ai trouvé que c'était le kawaii gen. Volcan en étape 2, ça a été quand même une énorme ascension. 5 heures à pousser une brouette de soufre.
La veille, on était chez nous. Et le lendemain, on est en Indonésie, on monte le volcan.
On n'a rien compris à ce qui nous arrivait.
On n'a pas dormi dans l'avion. On était tellement excités. On part où ? Et on va rencontrer enfin Stéphane.
Quand on est rentré, on a mis un bon mois sans remettre. Déjà, le corps, il lâche. Hein, parce que comme on est toujours en pression, le corps tient. À partir du moment où on s'arrête, là, le corps te lâche complètement.
Ouais, c'est le mental en fait qui nous tient. Parce qu'on est fatigué, on dort pas toujours comme il faut chez les locaux. Mmh. Et c'est vrai qu'on rentre.
Ouais, il y a Pékin Express et il y a l'après.
Le baby blues quand vous rentrez.
Ouais, c'était baby Pékin.
On se parle tous les jours depuis qu'on est rentré et on se voit toutes les semaines.
Il y a un manque en fait qui s'est créé parce que moi j'ai retrouvé le lit avec mon conjoint, ma fille, mais Romain me manquait. C'est quand même bizarre de dire qu'un homme me manque alors que je suis avec mon conjoint.
Alors depuis leur retour mi-octobre, ils sont les héros discrets du Pas-de-Calais. Et que vont-ils faire de leurs 77 660 euros de gains ?
On va se mettre ensemble, au moins on partage pas.
Elle m'a fait changer de bord pendant l'aventure.
Moi je pense que je vais faire un petit voyage avec ma fille et mon conjoint.
Et moi pareil.
Ma fille, quand je vois les étoiles qui brillent dans ses yeux, ça n'a pas de prix.
Votre mot de la fin ?
Waouh !
Pareil. Exceptionnel, ouais.
Et bien sûr, ils sont prêts à repartir. C'était une magnifique saison avec un très très bon esprit et tous ont réussi à jamais scraper le chignon, si j'ose dire.
En les entendant, ça a fait naître des histoires d'amitié.
Tout à fait.
Voilà. Chaque dimanche, notre supplément télé avec Isabelle Morini-Boss. Merci Isabelle. Allez, à suivre une séquence très émouvante. On va retrouver celui qui nous a quittés cette semaine, l'immense écrivain américain Paul Auster, Bernard Lehu. Il y a 5 ans, Paul Auster vous avait reçu chez lui à New York, dans le quartier de Brooklyn. Vous aviez passé du temps ensemble dans son bureau, là où il écrivait. On va revivre cette rencontre dans un instant. À tout de suite.
Laissez-vous tenter avec Anthony Martin.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers. Mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados. En collaboration avec MSD.
RTL. En Pays d'Oc, grâce au cépage, on en sait davantage. Aujourd'hui, la parole au Pinot Noir, un cépage rouge qui n'a pas froid aux yeux.
Ici en Pays d'Oc, je me refuse à rien. Un apéro, un dîner, un barbecue, je suis toujours partant. Un conseil ? Un petit passage au frais me donne un vrai coup de fouet. Et sans casser mes arômes de fruits rouges.
Pays d'Oc, 58 cépages et une indication géographique protégée à retrouver sur nos bouteilles. Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la région Occitanie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Mince, une fuite en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec AllWest Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. AllWest Discreet, protection fiable, discrétion incroyable.
Dispositif médical.
Oh, on a passé de super moments ensemble, mais il faut qu'on se sépare. Tu me coûtes très cher, tu sais.
Jacques est injuste. Pendant les Oscars Odez, Oscaro.com vous offre jusqu'à 70% de remise sur des milliers de pièces et produits.
Bon ben, je te garde.
Oscaro.com, la référence pour votre auto.
Voir conditions sur le site. Oscar Odez signifie les jours Oscaro.
Ça va beaucoup mieux avec Jimmy Mohamed.
Le chocolat, c'est une petite mine de vitamines, de minéraux et d'antioxydants à tel point que le chocolat est bon pour le cœur.
Et on doit tout cela notamment au cacao,
qui est un antioxydant par excellence. Et malheureusement, les industriels se servent du marketing pour vendre du chocolat au lait. Pas forcément très bon pour la santé, car pauvre en cacao et trop riche en sucre. Il faut garder en tête que plus un chocolat est riche en cacao, meilleur il sera pour votre santé.
Les conseils santé du docteur Jimmy Mohamed, c'est dans Ça va beaucoup mieux, tous les jours à 8h35.
Anthony Martin sur RTL.
Laissez-vous tenter.
Avec toute l'équipe de Laissez-vous tenter à mes côtés, on vous souhaite un bon dimanche à l'écoute d'RTL. Merci de votre fidélité. Un géant de la littérature américaine nous a quittés cette semaine, Paul Auster, qui souffrait d'un cancer du poumon. Il s'est éteint à l'âge de 77 ans, entouré des siens dans sa maison de Brooklyn à New York. Bernard Lehu, Paul Auster est l'auteur d'une œuvre prolifique. Pour celles et ceux qui ne sont pas forcément adeptes, qui n'ont pas forcément lu ses livres, lesquels nous conseillez-vous ?
Oui, parce qu'il en a écrit une trentaine à peu près, traduit dans je ne sais combien de langues. Alors, je vais proposer, ça n'est pas très original, mais son œuvre la plus célèbre, la trilogie new-yorkaise, qui, comme son titre l'indique, est un ensemble de trois romans, mais ils sont réunis en un volume. Hein. Vous pouvez acheter le livre, ça fait un seul livre. Et alors là, on y trouve vraiment tout ce qui fait l'univers et le style de Paul Auster, dans un Manhattan qui ressemble à un labyrinthe, air des personnages à la recherche de leur identité, atmosphère énigmatique, ambiance polar, quête métaphysique et musique du hasard. Voilà, tout Paul Auster est vraiment réuni là-dedans, la trilogie new-yorkaise.
Le premier volume, c'est La Cité de Verre.
Bien sûr.
Je me souviens de cette lecture. La particularité de Paul Auster, c'est qu'on se souvient des lectures, mais des années après, 30 ans après, on se souvient encore de la lecture de la trilogie new-yorkaise.
Et puis, c'est l'écrivain de New York. Hein,
exactement.
Vraiment.
On avait l'impression, à l'époque, pour toute cette génération de quinquants, en tout cas, de découvrir un peu la côte est grâce à lui, dans les années 80. Et dans un tout autre genre, Bernard, dans son œuvre.
Alors là, un livre que j'aime beaucoup, Chronique d'hiver, livre autobiographique. C'est l'un des rares titres autobiographiques de Paul Auster, même si dans ses romans, il mettait beaucoup de lui. De son histoire familiale. C'est une formidable évocation du temps qui passe et de la grande aventure qui nous est commune à tous et à toutes, la vie. Tous les livres de Paul Auster sont publiés chez Actes Sud. Voilà, essayez, tentez Paul Auster si vous ne l'avez pas fait encore.
Merci Bernard, vous avez interviewé à plusieurs reprises l'auteur Paul Auster, mais une rencontre en particulier vous a marqué, celle où il vous avait reçu chez lui à Brooklyn.
Ah oui, dans une grande maison de grès rouge, les Brownstones, comme on les appelle là-bas à New York et en particulier à Brooklyn. Il y travaillait dans les bas-fonds, comme il le disait lui-même en souriant. En fait, c'était un rez-de-jardin avec une grande pièce où nous avions débuté l'entretien, cerné d'étagères pleines de livres, mais alors pas n'importe quel livre, Paul Auster.
Ce sont mes livres à moi, et je suis traduit dans beaucoup de langues. Je ne sais pas quoi faire avec tous ces livres, mais j'ai un exemplaire de presque chaque édition de chaque pays, alors ça prend de place. Par exemple, là, ce sont dans les langues avec des alphabets que je ne comprends pas.
Ah oui, ça, là,
chinois, japonais.
Face ici.
Oui, oui. C'est curieux. Et ça me plaît beaucoup parce que je ne comprends rien.
Vous savez en combien de langues dans le monde vous avez été traduit, Paul Auster ?
Je crois maintenant c'est plus que 40. On m'a dit qu'il y a 7000 langues dans le monde. Alors, 40, c'est pas mal quand même.
Il avait de l'humour. Paul Auster était aussi un homme de cinéma. On l'oublie parfois, Bernard.
Mais oui, il a été scénariste et associé à la réalisation de 6 films, dont Smoke, Brooklyn Boogie ou La musique du hasard. Et puis, il a été réalisateur à part entière sur 2 autres, La vie intérieure de Martin Frost et Lulu on the Bridge avec Harvey Keitel. Et en 1997, Paul Auster avait fait partie du jury du 50e Festival de Cannes. Il en avait rapporté une photo, mais alors là, incroyable, historique, qu'il conservait soigneusement encadré.
Là, c'est mon ami John Boorman. le metteur en scène anglais, ça c'est Dominique Sanda.
Charlotte Rampling derrière, non?
Oui, c'est Charlotte Rampling, oui. Nanny Moretti, oui, c'est Lauren Bacall, c'est Pedro Almodovar, c'est Isabelle
Adjani, qui est juste...
Isabelle Adjani, oui.
Qui est juste à votre gauche, oui. Vous êtes très bien entouré.
C'est moi, il y a Jean Moreau, oui. Charlton Heston.
Oh, oui, incroyable.
Antonioni, hein? Gina Lollobrigida, oui. David Lynch, Tim Burton, Johnny Depp, Claudia Cardinale, Francis Ford Coppola,
Martin Scorsese, juste sous la
palme. Mike Lee, Bertolucci. Vous voyez, c'était incroyable d'être avec toutes ces personnes du cinéma.
Oui, j'imagine, c'est une photo qu'on garde.
Ah oui, quelle ça, photo. C'est sûr. D'ailleurs, j'ai la photo de la photo hein, dans mon téléphone. Je pourrais vous la montrer si vous voulez.
Alors Bernard Paul Auster, vous avez emmené ensuite dans le Saint des Saints son bureau.
Eh oui, bah alors une petite pièce monacale où il écrivait face à un mur nu, un mur tout blanc. Et puis, en entrant, un objet avait immédiatement attiré mon regard. Un exemplaire, on en parlait tout à l'heure, figurez-vous, du petit Larousse illustré.
Alors, j'ai fait ça sur le trottoir un jour, et je l'ai pris.
Sur un trottoir de New York, de Brooklyn
On fait ça à Brooklyn. Quand des gens ne veulent plus avoir des livres, il est là sur le trottoir. Oui. Alors j'ai trouvé le petit Larousse,
l'édition 1992.
Oui, oui. Ça m'aide de temps en temps.
Et puis alors, il y a ces cahiers sur lesquels vous écrivez.
Ça, c'est mon écriture. Mais vous voyez, ce sont des cahiers Clairefontaine. C'est la marque que je préfère.
Alors, vous les achetez où, Paul Auster?
On peut les trouver à New York maintenant.
Voilà, Cocorico à Brooklyn, chez Paul Auster. Ouais, c'est assez fascinant. C'est même émouvant de découvrir que les livres qu'il a écrits sont nés sur des cahiers Clairefontaine. Pour ceux qui se demandent pourquoi il parle si bien français, il faut rappeler qu'au début des années 70, je crois, il a vécu en France, Paul Auster.
Il avait d'abord étudié la littérature française. Il est traducteur d'ailleurs, de grands auteurs français.
Mallarmé.
Et il était venu, entre autres, Georges Simenon aussi, et il avait vécu près de 4 ans en France, à Paris, comme le faisaient beaucoup d'artistes américains, mais aussi à Angers. Et c'est là où vraiment il avait appréhendé la France profonde, et il connaissait très très bien, et il aimait follement notre pays.
Voilà pourquoi il parlait si bien français. On continue, on poursuit la visite de son bureau. Avec quels autres objets, Bernard?
Alors, ses stylos à l'encre noire, une vieille machine à écrire, une Olympia, une pierre fossile qu'il avait ramassée lors d'une promenade en Ardèche, et puis quelques photos très rares, son épouse, l'écrivaine Siri Svet, et leur fille Sophie, qui est chanteuse.
Elle compose la musique, elle écrit les paroles de toutes ses chansons. Elle est née dans cette maison, elle a découvert la musique dans cette maison. C'est elle qui est le plus proche, quand je pense à ces lieux et la musique. Elle a sorti au printemps un nouveau disque, et je crois la dernière chanson, c'est ça ce qu'il faut jouer, parce que c'est magnifique.
La belle voix de Sophie Auster, la fille de Paul Auster, et cet émouvant hommage.
Je l'avais vu un soir, Sophie Auster, chanter au New Morning. Vraiment, elle a du talent, la petite.
Ah oui.
Merci Bernard pour cette émouvante visite dans le bureau de Paul Auster en votre compagnie. On peut bien sûr retrouver l'intégralité de cette visite et de ce reportage sur l'appli RTL et sur le site rtl.fr. Merci Bernard. Et bien justement, on a le temps d'écouter encore un peu de musique. Dans un quart d'heure, vous le savez, on retrouvera Eric Jean-Jean, Stop ou Encore, avec notamment au programme Taylor Swift qui arrive en France la semaine prochaine. Hein.
Le 9 mai, la reprise de sa tournée mondiale. On ne sait pas, le grand suspense, c'est si elle va rajouter une partie dans le concert.
Des chansons de son nouvel album.
L'album, c'est la grande interrogation.
Mais là, je sais qu'Eric va nous faire écouter au moins un titre du nouvel album de Taylor Swift. Dans l'immédiat, une nouveauté, une pépite. À la fin du mois, le guitariste Wax sortira un album de duo. Il accompagnera des artistes à qui il a demandé de reprendre la chanson qui leur a fait aimer la musique. Et on découvre ce matin le choix de Mathieu Chédid. Vous l'adorez, Laurent. Mathieu Chédid a choisi de reprendre le classique « J'ai 10 ans » d'Alain Souchon. Voici sa version M, accompagnée par le guitariste Wax.
J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je Je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Et moi je rigole, cerf-volant. Je rêve, je vole, si tu ne crois pas. Hey, tire ta gueule à la récré. Le mercredi, je me balade. Une paille dans ma limonade. Je vais embêter les filles à l'avenir. Les gars. Je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire. Je vois souvent dans les montgolfières des géants et les petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tire ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billets pleins les poches. J'ai 10 ans, les fils et des cloches. J'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la Sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai des prix chez le marchand.
Mathieu Chédid et son clin d'œil à Alain Souchon. Cette version est disponible en streaming. Et la tournée des Souchon père et fils démarre la semaine prochaine. Vous en avez parlé hier
soir au Vésiné, à côté de Paris. La tournée va durer pendant de très nombreux mois.